inquiète beaucoup, l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement? Le magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
J'adore cet effet. Bon, eh bien, ce soir, on va... Ah, il n'y a que moi, on n'entend que moi, c'est ça. Voilà, vous pouvez dire bonsoir.
Bonsoir.
Salut.
Je ne vais pas brancher vos micros. Alors, eh bien, ce soir, on va parler... Eh bien, de quoi on va parler? On va parler... On va commencer par des brèves, et ensuite, on va parler de Sarkozy, qui est en garde à vue.
Sarkozy est en garde à vue.
Ouais. Ensuite, on va parler grève.
Ouais, grève.
Ensuite, bon, moins drôle, on va parler violence policière en Jamaïque. On continue sur le moins drôle. On va parler d'Afrine et de politique internationale. Ensuite, on va parler des mauvais démons de retour en Argentine. Ensuite, on parlera... Vous avez vu, je fais le fil tout seul aujourd'hui.
Poursuite des mobilisations des parents d'élèves pour les familles des écolières mal logées.
Et il vient de s'asseoir sur sa chaise, quand même.
Ouais, ça va, hein.
Ensuite, on va parler... Silencieux printemps 2018. Ah, c'est poétique, un peu.
Ouais, sauf que c'est pas drôle, c'est les oiseaux qui disparaissent des campagnes, vraiment.
Et ensuite, on aura donc un agenda sur une série de discussions autour de la justice, dont une qui a lieu maintenant à la griffe.
Donc, en train de la louper.
Voilà. Si vous avez plus d'infos, que vous avez qu'à aller voir sur Rebellion ou continuer à nous écouter, c'est comme vous voulez. Et ben voilà, hein, on a l'impression que Sarko sera le président de la France, toutes les républiques confondues, à avoir le plus chauffé les bancs des commissariats. Bon, il s'agit quand même juste des bancs, hein, parce que pour ce qui est des couchettes en béton, ça ne le concerne pas, puisqu'il est rentré chez lui cette nuit, hein, pour suspendre sa garde à vue. Voilà, bon, pour ceux et celles qui se demandaient si c'est légal ou juste un privilège de président, et ben la réponse c'est les deux. Et à lire plusieurs déclarations d'avocats et de magistrats de leur carrière, ils n'avaient jamais entendu parler d'une telle situation, mais qui est légale, ce que le procureur peut faire un peu comme il veut. Il peut suspendre une garde à vue puis la reprendre ensuite. Voilà. Il n'avait jamais eu ça à part, quand même, pour. C'est un peu le même clan, hein, pour Claude Guéant, qui avait eu la même situation pour des histoires d'arbitrage litigieux par Bernard Tapie, le Crédit Lyonnais. Voilà toutes ces histoires. Mais lui, le procureur s'était quand même senti un peu obligé d'évoquer des raisons médicales, hein. Bon, même s'il s'agissait sûrement d'un nez qui coule, hein. Il y en a qui font quand même les infos avec un nez qui coule. Voilà.
Donc Sarko, là, il est en garde à vue pour des histoires de financement avec la Libye, c'est ça ?
Tout à fait, exactement. Il a été, bon, on reviendra pas dessus, mais c'était donc des histoires de financement de sa campagne de 2007, hein, avec des valises qui ont traversé la Méditerranée depuis la Libye, et ce, avec particulièrement des proches de Kadhafi.
Là, il n'y avait pas Frontex pour arrêter les valises, hein ?
Non, non, plutôt pas. Hein. Bon, Ségolène Royal a quand même déclaré « Ah, il semblerait que cette campagne présidentielle ne s'est pas fait d'égal à égal. » On va lui dire « Pas sûr que ce soit que les billets qui t'ont fait perdre non plus. Hein. » voilà, on va pas revenir du coup sur toutes ces histoires. Kadhafi aussi à l'Elysée, hein, c'était à un moment donné, hein, qui s'est assez à moi écouté, un grand ami de Sarkozy, avec de nombreuses poignées de main, un accueil à l'Elysée en grande pompe. C'est aussi des morts qui entourent des personnes qui devaient témoigner, hein, autour de cette histoire. Des soldats français présents pendant le lynchage à mort de Kadhafi. Enfin voilà, c'est un peu tout ça qu'il y a dans cette histoire. Il y a d'ailleurs un très bon secret d'info, une émission de France Inter qui en parle très bien. Bon, bah, malgré quand même tout ça, je veux dire, c'est que c'est pas juste. Il n'a pas juste trafiqué des factures, quand même. Je veux dire, ça a quand même. Et ben, malgré tout ça, il a quand même une liste de soutien qui ne faiblit pas. Hein. C'est quand même.
Nadine Morano.
Ah, j'ai pas sa déclaration. T'en as une ?
Nadine Morano, c'est la meilleure, mais je me rappelle plus. Mais en tout cas, ça a été la première, parce que hier, quand même, dans un premier temps, tout le monde s'est pas précipité pour le soutenir. Nadine Morano aussi.
Ah merde, bah, j'ai pas relevé son tweet. Hein. Dommage. En tout cas, il y a Christian Jacob, hein, qui a déclaré : nous assurons à Nicolas Sarkozy toute l'amitié, le soutien et l'affection du groupe Les Républicains. Unanime, hein, bon, c'est vrai qu'ils sont plus très nombreux. Dans ce moment qui est assez surréaliste, 11 ans après, c'est de l'acharnement. Oui. Éric Ciotti, hein, également, qui a déclaré son soutien et amitié à Nicolas Sarkozy dans ces moments. La vérité, une nouvelle fois, triomphera. On l'espère.
Ouais.
Et Jean-Pierre Raffarin, qui pourtant, on ne peut pas dire que ce soit le premier sarkoziste qui existe.
C'est le plus bronzé, par contre. Hein. C'est ce qui va beaucoup à la plage.
Et ben, en tout cas, il a déclaré « La justice ne gagne rien à être spectaculaire. On n'est pas obligé de donner le sentiment de vouloir humilier pour les juger, les humilier les personnes pour les juger. Hein, et ben, ça fait plaisir à entendre. Hein,
de... Tous ces gens qui se préoccupaient de tous les justiciables comme ils le font de Sarkozy, le monde irait peut-être autrement.
Et on parlait de Nadine Morano, on peut faire référence à une petite chronique qui s'appelle le Déclarama du magazine Regard, qui note des phrases dites par les politiques. On peut s'en taper l'épaule, mais quand même celle de Nadine Morano récemment, qui a dit qu'elle trouvait que bah, le président Macron était quand même plutôt bel homme et que ça changeait parce que celui d'avant, c'était pas ça. Voilà. C'est pour vous donner le niveau des débats.
Alors, qu'est-ce qu'ont de commun les contrôleurs aériens, les cheminots, les services publics, les agents des EHPAD, la RATP et presque les avocats?
La grève,
demain. Les avocats, c'est presque, parce que c'est pas demain, c'était aujourd'hui, journée morte pour les avocats. En tout cas, on dirait, après on peut être prudent parce qu'on s'est quand même plusieurs fois planté, mais on dirait que là, quand même, il n'y a plus un paquet de catégories de gens qui commencent à en avoir un peu ras-le-cul de la politique de ce nouveau gouvernement et qui sont bien décidés à l'exprimer dès demain dans la rue et en se barrant de leur poste de travail. A priori, 30% des vols seront supprimés demain, ça c'est les contrôleurs aériens. Les services publics, grève. Manif, 10h30, Jean Massé ?
Non, Bellecour.
Bellecour, 10h30, Bellecour. Toujours est-il que, écoutez, j'avais quand même envie de vous lire ce petit article du Figaro.
C'est la revue de presse du Figaro, comme tous les mercredis soirs.
Mais bien sûr, sur le Canu Info, on est parfois un petit peu fan de ce journal. Qui signale à notre attention et à notre indignation ce courriel de la CGT qui appelle à la désorganisation.
Ah oui.
Oui. Je ne vous le cache pas. Dans un courriel envoyé en interne, le secrétaire général de la CGT Paris-Gare de Lyon prévient que les cheminots ne s'interdiront rien. C'est entre guillemets, c'est une citation, ils ne s'interdiront rien pour faire plier le gouvernement. Le Figaro s'étrangle d'indignation.
Aïe, aïe, aïe.
Qu'importe les désagréments que vont subir des millions d'usagers, puisque les CGTistes sont vraiment sont juste là pour faire chier le monde.
Oui, surtout, il y a
les grévistes de la SNCF n'entendent pas faiblir, même si l'usager doit en souffrir. Dans un mail interne envoyé ce week-end aux membres de la CGT Cheminots de Paris-Gare de Lyon, et que le Figaro a pu consulter, c'est donc pas de la blague, ils l'ont vu. Le secrétaire général de la section parisienne de la CGT Cheminots lance, ouvrez les guillemets, seul un rapport de force extrêmement fort les fera plier. Ces gens-là sont des barbares. Pardon. La section parisienne du syndicat se réjouit du mode d'action choisi, la fameuse, vous savez, la fameuse grève de 2 jours sur 5 jours pendant 3 mois. Donc ça, on vous l'a expliqué, enfin tout le monde vous l'a expliqué. Hein. Ça va être le mode d'action des cheminots qui devrait leur permettre de tenir assez longtemps. Mais surtout, ce mode d'action qui, rouvrez les guillemets, c'est encore une fois une citation du mail, permet de désorganiser fortement le plan de transport et les travaux. Dans ce long texte, le ton est clairement donné. Rouvrez les guillemets, on va démarrer ensemble, on terminera ensemble. On ne s'interdira rien. On ne s'interdira rien.
Et ça, le Figaro, ils peuvent pas, quoi. Ouais.
Si jamais nous voyons que ces 2 jours ne suffisent pas à désorganiser la production, alors nous pourrons toujours durcir le ton. Il est hors de question que nous perdions ce combat, ça c'est toujours dans le mail, ajoute l'auteur de ce mail, sans même, dit le Figaro, évoquer la notion de service minimum.
Oh, nom de Dieu.
Ah bon, pourquoi est-ce qu'il ne l'évoque pas? C'est parce que cette histoire de service minimum qui avait été une sorte de truc de guerre sarkozyste pour montrer que lui, ça va être plus fort que les grévistes. Il y a un service minimum dans les transports qui, en réalité, a extrêmement peu d'existence. C'est-à-dire que la seule chose que ça change pour la SNCF, c'est que les grévistes sont obligés de signaler s'ils vont faire grève ou non, 48 heures à l'avance, et la SNCF, elle, est obligée de faire le calcul et de donner des prévisions 24 heures à l'avance, donc des prévisions précises, de dire 24 heures à l'avance quels trains circuleront, quels trains ne circuleront pas. Alors, toujours des extraits du mail. La direction avait anticipé et s'est organisée pour une grève dure et reconductible classique. Ils n'ont à aucun moment senti venir le coup, se réjouit le syndicaliste. Notant que le mouvement sera ingérable, avec des tirets au milieu, pour les dirigeants de l'entreprise publique et le gouvernement. Nous pouvons tenir 3 mois, tout en ayant quasiment le même impact qu'une grève reconductible classique sur les jours où nous serons à la production. C'est-à-dire que, en gros, ce qu'il dit, c'est que en bossant pas 2 jours sur 5, en réalité, ils foutent le bordel 5 jours sur 5.
Ce qui est très malin de leur part.
Mais tout à fait, tout à fait. Et donc il ajoute que la désorganisation du travail devra se faire également sur les jours ouvrés. Parce que c'est ça en fait, c'est que à chaque fois le temps de rattraper les merdes qui seront passées pendant les jours de grève, eh ben on en sera déjà au jour de grève suivant.
Sachant que c'est déjà, je pense pour la SNCF, c'est déjà la merde. Je ne sais pas si vous avez su, mais il y a des histoires de billets réservés, pas réservés. Enfin, en gros, la SNCF a bloqué les réservations des trains les jours de grève. Et du coup, il y a des gens qui se sont retrouvés un peu, qui avaient à ce moment-là déjà acheté leurs billets. Bref, c'est de la merde. Je pense qu'en ce moment, au service coup de fil de la SNCF sur l'application de réservation, je pense que ça doit être sympa.
C'est chaud. Il y a des chances, effectivement. La section CGT des cheminots Paris-Gare de Lyon prédit de fait une belle pagaille au bout de quelques jours, puisque ça dit encore, les agents ne seront pas au bon endroit, les rames seront perdues au milieu de nulle part, etc., etc.
Ça, c'est toujours dans le Figaro que tu as lu
c'est
ça.
C'est toujours dans le Figaro, et là, la phrase avec Nana, c'est toujours un extrait du mail. L'entretien des voies et du matériel deviendra vite impossible. Le syndicaliste souligne toutefois que les modalités de la grève, 2 jours sur 5, préserveront les cheminots du décompte des jours des temps de repos. Bon, ça c'est des... Enfin, bon, bref. Après la révélation par Le Parisien de ce mail, le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, a demandé mercredi des explications à la CGT. « On organiserait la désorganisation ?» s'est interrogé Guillaume Pépi sur RTL. « Ça, ce n'est pas la SNCF, ce n'est pas les cheminots, ce n'est pas le service public. » Rien ne justifie que pendant 3 mois, on prévoit une gêne permanente des usagers. Bah si, le conflit social, ça justifie exactement ça. Je pense que les autres cheminots, l'immense majorité des cheminots, comme moi... Alors oui. Guillaume Pépi est cheminot. Alors bien sûr, lui, disons que quand il aura perdu son statut, il lui restera quelques... privilèges que les conducteurs de TER n'ont pas forcément, ni les agents d'entretien des gares, ni... Donc l'immense majorité des cheminots comme moi ne se reconnaissent pas dans ces menaces, a réagi le patron de la SNCF. Qu'il y ait grève, c'est un droit constitutionnel, mais lorsqu'il n'y a pas grève, il faut que tout le monde fasse des efforts pour que le service public fonctionne pour les 4,5 millions de voyageurs quotidiens.
Donc il veut qu'on fasse une grève sans effet, en
c'est
fait,
ça.
C'est ça. C'est
grève, c'est normal, c'est inscrit dans la loi, c'est la République,
voilà.
Vous voyez.
Voilà.
C'est la loi de la République, donc c'est bien qu'il puisse y avoir grève, mais par contre que ça gêne des gens, ça, par contre, c'est vraiment scandaleux. Alors la ministre des Transports, Elisabeth Borne, y va aussi de son petit commentaire. Si l'objectif c'est de perturber au maximum les voyageurs, de désorganiser le service public, là je pense que ce n'est pas ce qu'on peut attendre de l'action syndicale.
Non, mais j'ai l'impression que pour la désorganisation du service public, on peut attendre ça du gouvernement.
Bah, de toute façon, oui. Alors effectivement, ça on peut pas mal. Il n'y a qu'à aller jeter un coup d'œil dans les hôpitaux, dans les EHPAD ou dans n'importe quoi. Ils sont assez balèzes. Mais donc, merci monsieur le directeur, hein, Guillaume Pépi, merci madame la ministre, c'est sympa de vous expliquer comment on réussit une grève. Malheureusement, on dirait que les cheminots se sont déjà plus ou moins fait leur avis, qui n'est pas forcément exactement le même que le vôtre. Alors demain, un TGV sur 4, un intercité sur 3. Alors les TER, ça devrait être 1 sur 2, mais quand même, ça dépend carrément des lignes. Et par exemple, si vous voulez aller à Saint-Étienne, bah, en partant de Perrache, c'est 0. Oh. Et en partant de Lapardieu, c'est 1 sur 8, autant dire qu'il risque d'être assez bondé. Il y a des lignes entre Villefranche et Vienne, il y a zéro.
Mais on peut manifester aussi bien à Paris qu'à Lyon, qu'à Saint-Étienne.
Ah, mais tout à fait. Écoutez, si vous êtes à Saint-Étienne, restez à Saint-Étienne. Le rendez-vous, je ne me rappelle plus, mais il est précisé sur Rebellion. Si vous êtes à Lyon, 10h30 à Bellecour.
C'est ça. Et si vous voulez vous informer sur comment c'est possible de faire grève, tout ça, il y a un excellent article sur rebellion.info qui fait un point sur le droit de grève.
Allez, on s'échappe temporairement de l'Hexagone et on va du côté du reste, hein, donc du monde entier, avec un petit passage par Israël, par la Jamaïque et par l'Argentine progressivement. Donc juste une info du jour, ouais, c'est une info un peu forte de café, c'est Israël qui revendique la destruction, le fait d'avoir bombardé avec leurs avions américains, vendus par les Américains, donc qui revendique la destruction d'un réacteur nucléaire en Syrie en 2007. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont mis 11 ans à annoncer qu'en fait, ils agissent un petit peu comme ils veulent. Alors, en fait, du coup, ce qui est expliqué, c'est qu'ils trouvent que c'est opportun de le signaler maintenant pour montrer qu'en fait, ils veulent montrer à la communauté internationale, ils veulent montrer que l'État hébreu, en fait, n'hésitera pas à agir militairement pour assurer sa sécurité et un petit peu comme bon lui semble. Donc c'est exactement ce qui s'est passé donc en septembre 2007. Certes, c'était pas très heureux puisqu'il y avait une centrale nucléaire du côté de la Syrie qui était un réplica de ce qui se fait en Corée du Nord, qui était sur le point d'être fini, avec probablement de la production de combustible nucléaire pour faire des bombes. Mais ils sont allés, ils auraient pu, je sais pas moi, aller à l'ONU ou quelque chose dans le style. Et ben non, ils ont bombardé cette usine et puis ils l'ont dit à personne. Tout le monde avait compris que c'était eux. Les Américains s'en doutaient très fortement. Les Syriens le savaient. Mais voilà, ils se sont tus stratégiquement. C'était important de ne pas le dire, apparemment. Et voilà, donc ils nous annoncent ça aujourd'hui. Je vous rappelle quand même qu'Israël n'a jamais reconnu avoir la bombe atomique.
Et on va se faire une petite pause musicale avec l'État assassin d'Assas.
continue du côté du monde avec un passage par la Jamaïque avec justement des homicides illégaux, pour dire la terminologie utilisée donc par Amnesty International, perpétrés par la police, donc disons-le, c'est donc des meurtres policiers. Donc en fait, c'est il y a quelques jours Amnesty International qui est arrivé, qui allait voir le premier ministre jamaïcain Andrew Holness avec plusieurs proches de personnes qui ont été tuées par la police dans plusieurs pays du continent américain, donc aux US, un peu partout ailleurs. Ils ont remis des dizaines de milliers de lettres et de signatures à ce premier ministre jamaïcain en lui demandant de protéger les familles des victimes contre les mesures d'intimidation généralisées de la police et de veiller à ce qu'elles puissent avoir accès à la justice. En fait, c'est que voilà, en Jamaïque, c'est un petit peu spécial. Par exemple, en 2007, il y a 168 personnes qui ont été tuées par des agents des forces de l'ordre. Donc ça fait en moyenne 3 personnes par semaine qui sont tuées par la police en Jamaïque, sur un pays donc, qui compte 2,8 millions de personnes. Et au cours des 10 dernières années, il n'y a eu que quelques rares policiers qui ont été déclarés coupables de tels homicides. Alors il y a eu un tribunal spécial qui a été ouvert en 2011, mais il n'a pas un rond, ce tribunal. Le nombre d'affaires en attente s'accumule, un budget ridicule, et il y a juste un juge et très peu de personnel associé à ce tribunal. Donc évidemment, ça n'avance pas. Et un autre point qui est important, qui est donc signalé par Amnesty International, c'est que il faut que le gouvernement soit conscient des manœuvres d'intimidation qui sont perpétrées par la police à l'encontre des familles des victimes pour leur demander de se taire ou en tout cas leur éviter de se bouger pour tenter d'obtenir justice. Alors dans le cadre de cette campagne d'Amnesty International, il y a donc des milliers de messages qui sont arrivés, en particulier par exemple pour Madame Jackson, dont le frère a été tué par la police jamaïcaine en 2014. Et en 2016, il y a eu une enquête préliminaire sur cette affaire qui a été finalement classée sans suite parce qu'un témoin clé finalement avait refusé de comparaître au tribunal par peur de représailles. Donc ça, c'est toujours en Jamaïque. Donc là, la famille Jackson a déclaré que la police avait effectué plusieurs descentes dans le quartier, dans leur quartier, et qu'elles avaient été victimes de manœuvres d'intimidation au tribunal. Donc comme de centaines d'autres, l'affaire est donc au point mort et en attente d'enquête. Il y a un autre exemple précisé par donc Amnesty International. Mercia Fraser, qui est la mère de Dario Dean. Lui, il est mort après avoir été violemment frappé en garde à vue. Et donc cette femme a accompagné des membres de l'ONG jamaïcaine For Justice. Elle était dans cette délégation et elle a aussi amené un certain nombre de messages pour préciser que bon voilà, ça peut plus durer. Donc Andrew Holness, le premier ministre jamaïcain, il faudrait qu'il bouge un petit peu dans ce sens-là, quoi. Voilà. Et un petit peu dans la même veine, cette fois-ci, on va du côté du Brésil. Ça date du 14 mars 2018, je ne sais pas, vous en avez peut-être parlé, et ben à Rio. Alors, il faut savoir que Rio est occupé par l'armée depuis février. C'est le président qui a décidé d'envoyer l'armée donc dans la région de Rio pour essayer d'y... Enfin, je ne sais pas, pour évidemment faire du sécuritaire plus.
Je crois que c'est ça, mais en même temps, c'est aussi parce qu'il se défie complètement de la police. Il me semble que c'est plutôt ça, la situation.
Voilà, toujours est-il
parce que les flics au Brésil sont quand même connus pour être vraiment, eux, des assassins.
Voilà, et donc justement, ce 14 mars, il y a la conseillère municipale Marielle Franco. Alors, il est précisé qu'elle était noire, que c'est important par rapport à la sociologie là-bas du côté du Brésil. Elle était gay et donc elle a grandi dans un milieu complètement défavorisé, dans une favela. Voilà. Donc elle était conseillère municipale, elle a toujours lutté pour le droit des femmes, milité pour les droits humains et dénoncé la guerre civile dans les favelas. Elle s'est aussi exprimée vis-à-vis de des droits de la jeunesse noire et puis du fait que cette jeunesse noire est carrément cartonnée par la police militaire. Eh bien, elle a été tuée, tout simplement. Il y a eu 7 balles qui ont été tirées sur sa voiture. Ils ont tué son chauffeur et ils l'ont tuée elle-même. Donc elle a été assassinée. Et tout porte à croire, bon, ça, je prends un verbiage de la télévision, mais en fait on sait très bien que c'est la police qui l'a tuée, puisqu'en fait les balles qui ont été identifiées montrent bien que Marielle Franco, donc cette conseillère municipale de Rio de Janeiro, a été assassinée donc, par la police. Donc il y a un appel à rassemblement.
Reste à savoir, explique le procureur de Rio, comment est-ce que ces balles des policiers sont arrivés jusqu'aux assassins. Est-ce qu'elles ont été volées? Est-ce qu'elles ont disparu? Est-ce que, en tout cas, la justice couvre largement, quoi.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, en tout cas, plutôt que de palabrer sur ces balivernes, voilà, il s'agit de s'exprimer. Et un rendez-vous pour un grand rassemblement le 24 mars de 14h à 19h au départ de la place Bellecour, donc, pour parler de, pour s'exprimer sur cet assassinat de Marielle Franco. Histoire pour moi de rebondir sur l'Argentine. Alors c'est juste en dessous, hein, pour celles et ceux qui sont un peu nuls en géo. L'Argentine, c'est en dessous du Brésil. Et il y a le mensuel CQFD numéro 162. Alors, car la particularité d'être, vous pouvez l'acheter dans le journal, vous pouvez acheter le journal papier dans les librairies, mais il met ces articles progressivement en ligne pour une lecture sur Internet. Et il y a un papier qui décrit ce qui se passe donc en Argentine. L'Argentine, elle est aux mains d'un autre comment dire, un autre président qu'on va pas particulièrement apprécier du côté de Radio Canut, c'est Mauricio Macri. Alors ils décrivent un peu ce qui se passe. Ils ont pas le Macron, ils ont le Macri, eux. Et c'est assez terrible. Il y a des factures des services qui ont été multipliées par 10, licenciements massifs, large coupe budgétaire dans le secteur public, recours à l'endettement, etc., etc. Le gouvernement précédent, c'était celui de Cristina Kirchner, il faisait pas rêver, mais en fait l'actuel a carrément de quoi susciter de vifs cauchemars. Et ce qui est assez intéressant, nous dit le journal, que c'est que la population en fait ne réagit pas. C'est assez la politique de Macri est dure, mais rien ne semble ébranler la tranquille mise à sac du pays au profit des plus riches et des multinationales en goguette, nous dit cet article dans CQSD. Les protestations n'ont pas dépassé le cercle des gens directement concernés par les mesures gouvernementales et des organisations de gauche très minoritaires. Donc il y a vraiment une mise à sac du pays et il ne se passe pas grand chose. Alors il y a un petit espoir quand même, c'est qu'en décembre dernier il y a eu une petite remontée de bretelles du côté vis-à-vis de la réforme des retraites, où il y a eu des manifestations, des affrontements avec la police dans les quartiers. Et on s'est mis à espérer que ça pourrait un petit peu bouger, mais malgré tout il y a cette droite néolibérale qui est bien installée, qui est assez soutenue par les médias et qui donc est assez bien positionnée, qui se claironne pragmatique, qui dit qu'elle n'est pas idéologique, etc., etc. Mais qui s'emploie, mais elle s'emploie sans relâche à euphémiser sa propre politique. Et c'est peut-être ça qui fait qu'en fait l'opinion publique fait que ça bouge pas et qu'on revient aux heures sombres de l'Argentine. Alors par exemple, quand le président argentin Macri a été mis en cause dans les Panama Papers, en fait les médias ont préféré titrer sur autre chose, sur une affaire de corruption qui concernait le précédent gouvernement, quoi. Tu vois. Donc c'est un petit peu glauque. Et on peut espérer que cette réaction populaire de décembre pourrait éventuellement suggérer que ça va bouger. Il y a peut-être le gouvernement qui peut y croire, puisqu'il a acheté récemment 15 millions de balles en caoutchouc. Ouais. Voilà, 15 millions de balles en caoutchouc.
Il fait exactement comme Macron, en fait.
Voilà, ça indique clairement la manière dont il compte, ce gouvernement, si nécessaire, imposer son train de réforme, qui est, je vous le rappelle, à baser très fortement sur beaucoup de libéralisme, et puis aussi des soupçons de d'extrême droite, avec, par exemple, et j'en terminerai par là, la ministre de la Sécurité, qui a dit des choses assez sympathiques, comme, je vois les guillemets, bien sûr, je suis ironique, les Péruviens et les Paraguayens qui viennent ici ne sont Les Péruviens et Paraguayens qui viennent ici ne sont bons qu'à s'entretuer pour contrôler le trafic de drogue. Donc c'est des déclarations, donc dans ce papier des outrancières, mais qui sont ouvertement racistes. Voilà. Donc l'Argentine, c'est un peu terrible. Et je voudrais juste terminer encore, c'est long, hein, mais avec un article qui est plutôt un coup de gueule, envoyé par Alfredo Pita, qui est un écrivain péruvien, qui s'appelle « L'Amérique latine fragilisée par des coups d'État masqués », que vous pouvez retrouver sur Internet, qui nous dit ce qu'on sait, hein, c'est que l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, du début des années 2000, c'est plus ce qu'elle était. C'est-à-dire, je vous rappelle, il y avait du progressisme du côté du Brésil, de l'Argentine. Il y a toujours encore Evo Morales en Bolivie, mais il y avait aussi des progressistes en Honduras, au Paraguay, au Brésil. Et tout ça, les uns après les autres, ils ont été dégagés par des espèces de coups d'État masqués, des embrouilles, des histoires invraisemblables, qui font que, en fait, ce ne sont que des présidents libéraux qui sont aux mains de cette Amérique du Sud. Et en particulier, ce sont des présidents qui sont tournés vers un dragon, un dinosaure plus exactement, qui n'est autre que le dinosaure américain. Et justement, cet homme-là cite, pour terminer, une citation de l'écrivain guatémaltèque Augusto Montelero qui dit « Quand il se réveilla, le dinosaure était encore là ». Et le dinosaure, c'est plutôt les États-Unis, quoi, qui sont vraiment perchés au-dessus de cette Amérique du Sud. Voilà. Et on revient de notre côté.
Et du coup, plus exactement à Afrin, hein, où
qui est donc erreur de fil.
Voilà, qui est donc en Syrie. Et du coup, c'est là où en général on arrête de rigoler. Comme annoncé la semaine dernière, les nouvelles ne sont du coup pas du tout bonnes et donc Afrin est tombé. La région est donc désormais aux mains d'Erdogan et de ses milices. Les combattants ont fui la zone et les quelques civils qui restaient soit sont restés, soit ont fui les affrontements. La Turquie contrôle désormais plus de la moitié de la zone à sa frontière avec la Syrie. Il y a donc fort à parier qu'elle se sert de ça pour négocier encore plus fermement le sort des réfugiés avec l'Europe. On reviendra là-dessus juste après. Voilà, elle a annoncé qu'elle ne s'arrêtera pas là, mais c'est un peu le rôle d'Erdogan là de c'est un peu son côté va-t'en guerre. Il fait des grandes déclarations, c'est pas non plus sûr que ce soit le cas. Voilà, mais en tout cas un discours très très guerrier et de la part de la Turquie. Plusieurs actions de sabotage en solidarité à Afrin ont eu lieu, alors que ce soit depuis qu'Afrin est tombé mais ça s'est aussi passé avant. Je l'ai si vite fait, mais les Allemands ont un peu la palme, faut quand même le dire. Des sabotages de voies ferrées ont eu lieu en Allemagne, en Crète. La grande classe des militants sont rentrés dans le consulat, ont tagué Fight for Afrin et Biji Berwadane Afrin, qui veut dire solidarité avec la résistance d'Afrin. En kurde, ont remplacé le drapeau allemand par un drapeau kurde et ont déroulé une banderole, enfin tout ça à l'intérieur du consulat. Du coup, c'est assez chouette, il y a des vidéos sur internet. À Copenhague, l'ambassade de Turquie s'est pris des cocktails Molotov. En Allemagne, des véhicules de l'armée allemande on se retrouve avec des pneus cramés, des véhicules de sociétés allemandes qui sont plutôt du côté de la sécurité des militaires et tout se sont vus cramer, tout ça. Voilà, donc tout ça, c'est le côté un peu chouette, quoi. Mais de son côté, l'Union Européenne, qui a décidé de fermer les yeux jusqu'au bout et jusqu'à l'outrance, va augmenter son aide financière à la Turquie pour lutter contre l'immigration. Ça s'est passé mercredi et elle débloque 3 milliards d'euros pour que la Turquie garde et gère sur son sol les réfugiés. Voilà, donc depuis le début de ce conflit, la Turquie elle a quand même réussi à se placer un peu au centre de cette gestion, entre guillemets, des réfugiés. Alors Dimitris Avramopoulos, qui est actuellement commissaire européen chargé de la migration, a déclaré, je cite, « Notre coopération avec la Turquie est essentielle pour répondre aux défis communs ». Donc il a quand même dit défi commun dans une déclaration qui a eu lieu mercredi. Il a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse et bien sûr qui fait référence aux tensions récurrentes entre l'Union européenne et Ankara. Donc lui est plutôt pro-rapprochement entre l'UE et la Turquie, en tout cas sur la gestion des migrants. Donc voilà, le rapprochement entre l'Union européenne et la Turquie est un engagement de long terme, il a-t-il déclaré, c'est une question de volonté politique commune et évidente, il faut éviter les escalades inutiles. Voilà, c'est là où on comprend les enjeux. Du coup, mercredi, il a également, hein, dans ce grand discours, proposé la mise en place d'un mécanisme d'évaluation du degré de coopération des pays concerné par l'expulsion, enfin les, en gros ça concerne les pays qui refuseraient d'accueillir les ressortissants, par exemple la France veut expulser, je sais pas moi, n'importe quoi, un Malien, hop, si le Mali refuse trop de fois ou s'il a une politique de refus en disant non mais moi je le reconnais pas, voilà, ils ont
par exemple parce qu'il est pas malien mais que la France s'est pas trop vers quel pays le renvoyer,
voilà, ou
ce qui arrive, hein.
Ou s'il n'a pas un passeport en règle ou tout ça. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs qui fait qu'un pays peut refuser ou accepter une expulsion du coup. Donc voilà, donc lui voudrait proposer un degré de coopération, hein, et que si les pays ne sont pas coopérants, eh ben il y aurait des restrictions en matière de délivrance de visa. Du coup, par exemple, si voilà, vous avez compris quoi. Moi, plus vous nous faites chier, plus on vous fera chier sur les visas. Enfin voilà, ces visas ont toujours été un enjeu. Ça se faisait et ça se fait. Bien sûr, à l'échelle, enfin, on sait que la France, voilà, délivre des visas plus ou moins facilement suivant la situation des gens, mais par rapport à comment le pays gère ces histoires-là, voilà. En tout cas, là, il veut un truc au niveau européen, bien, bien classe, quoi.
Alors, le collectif Jamais Sans Toi, vous vous rappelez, c'est ces parents d'élèves qui sont pas très contents quand leurs enfants vont dans des écoles dans lesquelles d'autres enfants n'ont pas de logement. En gros, des gens qui occupent des écoles pour loger les familles d'autres élèves. Alors eux, ils se mobilisent d'ores et déjà en prévision de la fin de l'hiver juridique, de la trêve hivernale, qui arrive donc pour le 31 mars, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et puisqu'ils le disent, à ce moment-là, le 31 mars, de nombreuses personnes vont se retrouver à la rue, à nouveau à la rue. Bon, des hommes, des femmes, des enfants, des familles, et en particulier des enfants. Que disent-ils ? Notre cher président Macron voulait ne plus voir dehors. Il l'avait dit, il l'avait même promis. Et puis finalement, bah, bon. Alors, en plus de promesses non tenues, disent-ils, chaque année, la loi est bafouée, puisque cette loi, qu'on vous a citée un milliard de fois dans ce Canu Info, mais tant pis, on va recommencer. Le Code de l'action sociale pour les familles, l'article L345-2-3, prévoit que, ouvrez les guillemets, c'est la loi maintenant, levez-vous. Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer dès lors qu'elle le souhaite jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Y demeurer jusqu'à ce qu'on lui propose autre chose. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou une structure de soins ou vers un logement adapté à sa situation. Ça, c'est la loi. La pratique, c'est que quand le thermomètre descend vraiment trop bas, on ouvre un petit peu des gymnases pour mettre des gens. Donc ça, par exemple, c'est une structure d'hébergement d'urgence. Et puis, dès que le thermomètre remonte un peu, on les referme et on demande aux gens de bien vouloir se barrer. C'est-à-dire que c'est le contraire de la loi, c'est pourtant ce que fait la préfecture année après année. La préfecture qui est la représentante de l'État, qui lui-même fixe les lois, hein, mais ne s'y soumet pas. Or, la plupart des familles en tout cas que connaît le collectif Jamais Sans Toi, ont été informées qu'elles devaient quitter les structures qui les accueillent actuellement, qu'elles devaient les quitter pour le 31 mars. Et aucune solution, bien sûr, ne leur a été proposée pour faire autre chose que dormir dans la rue. Alors, le collectif nous précise encore qu'en plus des remises à la rue suite aux hébergements d'urgence, le 31 mars, ça va aussi vouloir dire les expulsions locatives. Ça, c'est pour les gens qui ont un appartement mais qui ne peuvent plus payer le loyer. En hiver, on ne peut pas les mettre dehors. Mais donc, à partir du 1er avril, on peut à nouveau les mettre dehors. Et les expulsions de squats qui vont aussi recommencer le 1er avril. Et bien sûr, tout ça massivement sans qu'aucune sorte de logement décent ne soit proposé aux gens qu'on va mettre dehors à cette occasion. Bon, pour toutes ces raisons, le collectif Jamais Sans Toi nous appelle, vous appelle à un rassemblement le 28 mars à 18h, quai aux gagneurs, c'est-à-dire en face de la préfecture, sur le quai en face de la préfecture. Le 28 mars, c'est quel jour ? C'est mercredi prochain.
Et si vous cherchez les infos sur Jamais Sans Toi, il faut mettre un T à toi, bien sûr.
Oui, bien sûr. Alors là, en tout cas, ils ont déjà commencé des petites mobilisations à droite, à gauche, dans les écoles, puisque c'est leur nid, on pourrait dire, leur milieu naturel. L'école Douaneau, Hugo, Servet dans le premier arrondissement, l'école Victor Hugo, l'école Lacanal, c'est à Villeurbanne, l'école Jean Zay, c'est à Villeurbanne, l'école Makarenko, c'est à Vaud, l'école Grand Clément, c'est aussi à Vaud. L'école Berthelot à Lyon 7e, toutes ces écoles se sont mobilisées la semaine dernière. L'école Jean Zay, la nuit dernière, des parents ont dormi dans l'école. En gros, pour montrer qu'ils étaient capables de dormir dans l'école. Alors qu'on n'aille pas remettre dehors les familles de l'école qui pour l'instant sont hébergées. Parce que, disent-ils, si cette situation perdure, nous nous verrons dans l'obligation de trouver nous-mêmes des solutions. Et donc ils ont montré hier à quoi ils pensaient comme solution. Et puis si vous voulez encore passer voir des petits goûters solidaires, c'est demain à l'école Masneau dans le 3e ou à l'école Jouot, c'est aussi dans le 3e, dans les deux cas à 4h30 à l'heure de la sortie de l'école. Ces gens vont aussi être ce week-end à la fête du livre de Villeurbanne. Et voilà, c'est tout.
Et tiens, pendant qu'on y est, juste une petite info de Chambéry pour rappeler un petit peu ce que c'est qu'un maire de droite. Hein. Le maire de droite de Chambéry trouve que, en fait, quand il va repasser aux 4 heures par semaine dans les écoles, donc c'est ça le lien avec la discussion précédente, et il trouve qu'il y a trop d'ATSEM, vous savez, ces personnels de la mairie qui viennent aider quand il y a un milliard d'enfants dans une classe, quoi. Et il trouve qu'il y en a trop, et puis probablement que ça coûte trop cher. Donc il a dit que, bah, fuck les ATSEM, on allait en avoir moins. Résultat, toutes les écoles de Chambéry aujourd'hui étaient close. Ta-ta-da-da, on ouvre une page science. Allez, un petit jingle. Boom. Ok, bon, en plus c'est pas drôle du tout, mais vraiment pas du tout. Alors à la fois dans le journal du CNRS et sur les news du Muséum d'Histoire Naturelle, donc qui est plutôt du côté de Paris, qu'on nous annonce que le printemps 2018 sera silencieux dans les campagnes françaises. En fait c'est simple, il y aura probablement très très peu d'oiseaux dans les campagnes et vous les entendrez pas. Donc il y a eu deux études qui sont sorties donc hier, deux études scientifiques très sérieuses qui sont basées sur deux dispositifs très différents. L'un qui est un dispositif scientifique expérimental donc du côté du CNRS où il y a depuis 1994 des sites dans un endroit où en fait régulièrement ils vont compter le nombre d'oiseaux, etc., etc. Et du côté du muséum, c'est ce qu'on appelle les sciences participatives, à savoir ils font confiance à des ornithologues en goguette, donc des gens comme vous et moi, et puis aussi des scientifiques qui comptent à travers la France les oiseaux qui sont par-ci par-là, et ce depuis plusieurs années. Alors, c'est la cata, donc je vais vous lire un petit peu ce qui a marqué. Donc ils ont annoncé ces résultats hier, et donc il s'agit donc d'une disparition massive proche de la catastrophe écologique, les oiseaux des campagnes françaises disparaissent à une vitesse vertigineuse. En moyenne, leurs populations se sont réduites d'un tiers en 15 ans. Donc il y a un oiseau sur trois qui a plu depuis 15 ans. Le déclin observé est particulièrement marqué depuis 2008-2009, une période, écoutez bien, qui correspond entre autres à la fin des jachères imposées par la politique agricole commune, à la flambée des cours du blé, à la reprise du suramendement au nitrate permettant d'avoir du blé surprotéiné et à la généralisation des néocorticoïdes. Donc ça c'est on s'est déjà fâché la dernière fois, c'est des tu sais le dire toi.
Les néonicotinoïdes.
Voilà, c'est des insecticides neurotoxiques qui sont très persistants d'une part, c'est-à-dire qui restent sur place et qui sont impliqués notamment dans le déclin des abeilles et dans les raréfactions des insectes en général. Donc l'histoire des jachères, s'il n'y a plus de jachères, Donc il y a moins de champs qui sont libres, dans lesquels peuvent se maintenir une certaine biodiversité, en particulier des insectes. Et de fait, du coup, pour les oiseaux, c'est difficile de s'alimenter. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des réactions en chaîne. On parle de chaîne trophique, de qui mange qui. Et si vous déstabilisez un bout de la chaîne, et ben peut-être que c'est de l'autre bout de la chaîne que vous pouvez voir, vous pouvez avoir un indicateur de cette grande métamorphose terrifiante des écosystèmes. Donc à ce rythme-là, on va vraiment vers une quasi disparition d'un certain nombre d'oiseaux. À l'automne 2017, cette fois-ci, c'est des Allemands et des Britanniques qui, pour la première fois, avaient mis un chiffre sur le déclin massif des invertébrés, donc plutôt du côté des insectes volants, par exemple. Ils avaient dit qu'il y avait un déclin de 75 à 80% depuis les années 90 du nombre d'insectes volants sur le territoire allemand. Donc il y a de moins en moins d'insectes. Donc s'il n'y a plus d'insectes, il y a moins d'oiseaux. S'il y a moins d'oiseaux, les oiseaux ils servent aussi à disséminer les graines. On parle de sites dispersants, ils dispersent les graines.
75 à 80%, hein, c'est quand même pas n'importe quoi.
Non, c'est assez terrifiant. Il y a un autre exemple qui est donné par le CNRS dans cette étude. Il parle du carabe, qui est un coléoptère qui est le plus commun dans la zone de plaine là, qu'ils étudient. Donc là, il y a près de 85% de ces populations qui ont disparu dans les 23 dernières années. Il y a aussi des oiseaux qu'on voit presque plus. La perdrix. Les perdrix, il y en a presque plus aussi dans ces coins-là. Et alors, un autre alors ça, c'est plus un questionnement scientifique, mais ils ont remarqué que c'était ce qu'on appelle les oiseaux spécialistes, les oiseaux qui sont spécialistes des champs, donc en particulier des champs où il y a l'insecticide, etc. Donc ces oiseaux-là, ils sont vraiment cartonnés. C'est-à-dire que de toute façon, eux, ils vont dans ces champs-là et eux, c'est vraiment un déclin terrifiant. Mais visiblement, pour les autres oiseaux, qui sont ce qu'on appelle généralistes, qui vont un petit peu en forêt, un petit peu ailleurs, un petit peu dans ces champs, etc., il y a aussi un déclin. Donc ça montre bien que c'est une vision d'écosystème dans sa globalité qu'il faut avoir, et que si vous touchez un petit bout de la chaîne, eh bien, peut-être c'est toute la chaîne en question qui peut être parasitée. Alors je voudrais juste citer, parce qu'ils le disent bien, ce qui est dans cet article du CNRS Le Journal, donc vous pouvez le lire. Il y a donc ce scientifique qui dit clairement, et c'est pas du cinéma, la situation, j'ouvre les guillemets, la situation est catastrophique, nos campagnes sont en train de devenir de véritables déserts. Les populations d'oiseaux s'effondrent littéralement dans les plaines céréalières et cela concerne toutes les espèces. Les perdrix se sont presque éteintes dans leur zone d'étude. Il n'y a plus de perdrix. Voilà, ça n'existe plus. Ce qui est véritablement alarmant, toujours dans le CNRS journal, c'est que tous les oiseaux des milieux agricoles régressent à la même vitesse, même les plus généralistes, ou les oiseaux de milieu boisé. Voilà, c'est ce que je disais. Donc on arrive vers un désert. Bon, la question qui se pose, c'est ça va aller jusqu'où, quoi, cette histoire, quoi. Voilà.
Et du coup, donc, ça la cause, pardon, mais c'est
alors justement,
plutôt...
tu fais bien de le dire. Ils expliquent que la cause, donc ça vient de cette politique, en particulier de ne pas laisser des jachères. Donc ça, c'est première chose. Et puis deuxième chose, c'est sûr que c'est la monoculture d'une part, et donc ça. Juste la monoculture sans parler des pesticides, et en plus la monoculture intensive qui fait qu'on a un modèle agricole qui est surdégueulasse.
Monoculture, c'est
c'est quand t'as des champs à perte de vue où t'as du maïs et du blé. Donc si tu veux que t'as pas de diversité, donc tu peux avoir des espèces qui peuvent ne pas s'y retrouver dans le fait qu'il n'y a pas leur environnement. Donc c'est une perte d'environnement adaptée à un paquet d'espèces, tu vois. Donc il y a, voilà, c'est comme s'il y avait que des fraises tagadas dans ton frigo. Au bout d'un moment, ça irait pas trop, quoi.
Il y a que ton enfant de 7 ans qui peut se nourrir.
Et ils le signalent, c'est toujours dans le CNRS, ils le disent. Ils l'ont prouvé, ils ont fait des expériences en essayant de faire de l'agriculture sans intrants. Ils disent, mais c'est pas quand tu vas réduire un tout petit peu les intrants ou à faire des petits ajustements, etc. Les intrants, c'est insecticides. Ils disent. La situation inquiétante, il ne faut pas interdire tel ou tel pesticide, il faut juste changer de paradigme, il faut changer de modèle, il faut changer de façon de faire l'agriculture. Et pas dans des petits champs à droite à gauche ou en faisant pousser dans les rues de Lyon des petits bouts de parcelles où il y a plein de jolies fleurs, etc. Il faut vraiment changer de modèle agricole et il faut se mettre les culs.
Avec une petite musique dramatique, ça.
Ouais, c'est glauque, hein.
Eh ben, ce Canu Info touche à sa fin. On va terminer avec un tout petit bout d'agenda pour signaler un cycle de discussion dont la première est donc en ce moment même. Enfin, elle est même très largement commencée puisque c'est depuis 18h30. Un cycle de discussion autour du thème de la justice. De la justice un peu chez nous, dans nos bandes et nos manières de penser. La justice, la connaître, y faire face, vivre sans. C'est ça la thématique. Et donc la présentation du projet nous explique que depuis l'affaire Tarnac, l'affaire Tarnac, blabla, le procès en ce moment, en tout cas depuis 10 ans, il y a eu quand même toute une remontée des affrontements politiques, en gros, de la conflictualité politique. Et que dans le cadre de cette remontée, la justice joue son rôle, et son rôle, bien sûr, c'est le rôle de la répression. Et alors voilà, au travers de lois, au travers de manières de juger aussi, que tout ça soulève un paquet de questions. Et nous disent les organisateurs de cette série de discussions, si on cherche aujourd'hui à interroger cette espèce de trajectoire contre-insurrectionnelle, ils appellent ça comme ça, ce truc de renforcement du pouvoir répressif de la justice, ce n'est pas pour le plaisir de la généalogie, de savoir d'où ça vient, comment c'est arrivé, etc., ou par une passion à la fois morbide et critique qui magnifierait la toute-puissance du système et l'impuissance des dominés. C'est parce que tout ce bazar pose des problèmes tactiques et stratégiques au mouvement politique. Quels sont les nouveaux outils de surveillance et de répression auxquels on a eu affaire récemment dans nos luttes ? Qu'est-ce que ça implique de détester la police, puisqu'on connaît ce slogan depuis la loi travail ? Mais qu'est-ce que ça implique de ne plus y faire appel dans nos vies ? D'arriver à vivre sans police ? Pourquoi s'indigner d'une surveillance totalitaire à l'âge du profilage généralisé et de la localisation permanente d'Amazon à Facebook ? Donc toute une série de questions extrêmement variées autour de la justice. Et puis, comment rejoindre les gens qui sont sensibles à ces questions, mais qui sont sensibles parce qu'eux croient à l'état de droit et à la démocratie ? Ce qui n'est pas forcément nos bases à nous, en tout cas. Ces problèmes et ces enjeux doivent pouvoir être affrontés collectivement. C'est tout le sens de cette invitation à 3 soirées de discussion organisées autour de 3 séries de questions. Et donc la discussion que vous êtes en train de louper si vous écoutez Scanu Info en direct est intitulée « Qu'est-ce qu'on a en face ? Antiterrorisme, justice administrative et note blanche ». Et c'est une discussion qui se fait avec un membre du syndicat de la magistrature, un chercheur au centre de recherche et d'études sur les droits fondamentaux et un avocat. Bon, ça c'était tout, enfin c'est en train de se terminer à la librairie La Griffe. Mais on a aussi comment se défendre depuis les mouvements, comment penser la répression comme possibilité d'affirmation politique. Et ça c'est avec un bonhomme qui est auteur d'une thèse qui s'appelle « De la défense révolutionnaire ». Une lecture transversale des années 70 italiennes, donc les gros mouvements sociaux violents des années 70 italiennes, à travers le prisme du secours rouge, il Soccorso Rosso en italien, wow. Et des membres du Forum civique européen. Ça, c'est demain, c'est à 18h30 et c'est à l'atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu. Et puis, très passionnant aussi, l'idée justement de pouvoir vivre sans flic. Abolir la police, se passer de justice, quelle piste ? Et ça se fera en présence de camarades de la ZAD. Des gens qui prennent part à ce qu'on appelle là-bas le cycle des 12, qui est un processus de médiation des conflits sur la ZAD. Donc la ZAD où en gros les gens sont quand même quelques centaines à vivre depuis quelques années maintenant sans intervention de la police autre que contre eux tous directement, mais en tout cas leur conflit entre eux ils les gèrent jamais avec les flics. Donc ils ont ce processus de médiation, ils s'occupent collectivement des conflits, et donc ils vont venir expliquer après-demain, ça c'est vendredi, comment est-ce que ça se passe. Donc vendredi 23, 18h30, à l'Amicale, le local de l'Amicale, personnellement je ne sais pas ce que c'est, mais je sais l'adresse, c'est au 31 rue Sébastien Griffe, donc 18h30, l'Amicale, 31 rue Sébastien Griffe. À l'occasion de cette série de discussions, il y a une brochure qui a été réalisée, qui est gratos. Alors, si ça se trouve, il y a encore des exemplaires dans l'entrée de la radio, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'on peut soit la trouver assez facilement sur Rebellion en format numérique. Sur Rebellion, par exemple, en pièce jointe de l'article qui présente cette série de discussions, soit on peut en trouver des exemplaires imprimés, ça c'est certain, à la librairie La Griffe.
Et on poursuit l'agenda pour un petit peu plus tard avec, j'ouvre les guillemets, la grande tournée contre la marchandisation et la touristification du monde. C'est du 8 au 29 avril, un petit peu pas mal dans la région. Après, moi je connais pas toutes les villes. Du côté de Chambéry, d'autres villes, de Poligny, de Mâcon, de Roybon évidemment. Alors c'est des discussions, débats, présentations de la lutte contre les center parks, concerts, théâtre, librairie, info kiosque, automédia, projection, lecture, café, etc. C'est voilà, différents collectifs, associations, lieux d'accueil et de lutte qui se réunissent pour donc à l'appel de la coordination Center Parks, ni ici ni ailleurs. Voilà, donc pour dire non à ces espèces de furoncles style Center Park, mais autres. Hein. Et donc c'est itinérant. Je ne sais pas où est-ce que vous pouvez trouver l'information. Moi, j'étais sur infolibertaire.net. Sinon, donc, ça s'appelle la grande tournée contre les Center Parks du 8 au 29 avril 2018 entre Poligny, Le Rousset et Roybon, ni ici ni ailleurs. 3 semaines contre la touristification et la marchandisation du monde.
On rappelle samedi 24 mars de 14h à 19h au départ de la place Bellecour un rendez-vous pour pour Marielle Franco qui a été assassinée
par la police à Rio.
Par la police à Rio le 14 mars.
Et puis demain,
10h30. Place Bellecour, pour Lyon.
Pour la grande manif de tout le monde.
Voilà. Eh bien, c'est l'heure de vous quitter.
On peut peut-être rajouter un petit conseil de lecture rapide.
Allez,
comme d'hab.
Ah, tu voudrais pas.
Il est lourd, l'autre, avec son conseil de lecture. Alors, cette fois-ci, c'est pas très très heureux, ça dure pas longtemps. Moi, je me suis plongé dedans pendant un bon quart d'heure, parce que je lis pas très vite. C'est dans cette revue dont je parle souvent, qui s'appelle la revue Ballast. C'est l'article qui date d'hier, qui est un article d'Adeline Baldacchino. Un article qui est rédigé avec dextérité, qui est assez long, et qui parle en fait de Margaret Buber Neumann, qui est en fait la seule personne qui s'est publiquement déclarée comme ayant participé, entre guillemets, au camp du Goulag, et aussi au camp nazi. Donc elle a survécu au Goulag, et elle a survécu au camp de concentration. Donc je lis l'intitulé de l'article. Margaret traverse le XXe siècle avec un bien triste privilège. Elle est la seule à avoir publiquement témoigné par écrit de sa double expérience des camps soviétiques et nazis. La jeune et fervente communiste, accusée de déviationniste par le pouvoir stalinien, survit à 3 ans de goulag sibérien pour se retrouver déportée à Ravensbrück après le pacte germano-soviétique pendant 5 ans. Elle suivra pour raconter inlassablement, sans amertume et sans illusion, ce que le pouvoir fait de ceux qui la détiennent et à ceux qui le détiennent. Donc cette phrase, c'est très très orienté Ballast, donc ce journal. Voilà, évidemment on peut lire ses écrits à cette femme-là, mais cette description de sa vie par cette journaliste Adeline Baldacchino est particulièrement émouvante, et donc je vous la suggère, donc www.revue-ballast.fr.
Vas-y.
Non, rien, à la semaine prochaine.
Merci de nous avoir écoutés. On vous laisse avec une musique de Didier Super en thématique avec la grève de demain qui s'appelle Abba, les gens qui bossent. Et vous retrouverez. Les bandes continuent après nous. Allez, bonne soirée, à demain.
Ciao.
Ciao.
En fait, la prochaine chanson, on a essayé de faire un vrai tube de merde pour les grosses radios à la con. Les autres de dormir.
et ça gêne pas pour que les coches fassent des boums.
Les gens qui bossent,
ils s'occuperaient de leurs enfants, y'aurait jamais de délinquants.
Les gens qui bossent.